Lolita, tout le monde connaît ce célèbre roman de Vladimir Nabokov, adapté à plusieurs reprises au cinéma et notamment par Stanley Kubrick. Voici maintenant un opéra imaginaire tiré de ce best-seller. La musique en est composée par Joshua Finberg, sur une mise en scène et chorégraphie de Jim Kleberg et Johan Saunier, et des vidéos de Kurt Dessler. Musique, mouvement et images, trois pôles pour cette création présentée dans le cadre du festival Les Musiques, proposé par le GMEM. Joshua Finberg, pourquoi opéra imaginaire ?
En fait, pour moi, il ne s'agit pas d'une œuvre derrière un quatrième mur, d'une opéra traditionnelle où on présente un récit ou une histoire. C'est vraiment une œuvre, tout comme le livre, qui est une œuvre qui a le sujet propre de création de cette œuvre même qu'on est en train de regarder. Donc c'est une sorte de mise en abîme. Donc quelque part, pour moi, c'est l'opéra imaginé par le narrateur où en fait tous les personnages, puisque c'est imaginaire, sont quelque part lui. C'est une sorte de démultiplication de ses fantasmes, de ses délires. Et dans ce cas-là, c'est un narrateur qui est à la fois très séducteur, très brillante, mais qui est aussi un monstre total et totalement fou. Donc on existe dans sa folie, dans ses délires, donc dans son monde imaginaire. Donc moi, ce n'est pas un opéra, c'est une opéra imaginaire.
On va donc se plonger dans l'esprit et la libido de Humbert Humbert.
Exactement. Et en fait, toutes les voix qu'on entendra, l'autre raison pour laquelle je me sentais pas en mesure de l'appeler ça un opéra, c'est pour moi, opéra, ça veut obligatoirement dire chanteur. Et là, en fait, on entend les voix de chanteurs, mais toutes ces voix sont le voix de Humbert, traitées avec une nouvelle technologie développée à l'IRCAM, qui permet de prendre le voix de notre acteur, ou d'autres acteurs d'ailleurs, et de le transformer, en fait, de prendre une grain de ce qui est sa voix, de ce qui sort de son glottus, et faire passer ça par les corps qui s'imaginent. Ce qui fait des voix qui ne sont pas des voix d'ordinateur réellement, ça ne sonne pas, ou en tout cas pour la plupart du temps, pas de voix de synthèse, c'est sa voix, mais c'est une voix impossible. C'est si on s'imagine une voix d'autre chose, mais c'est toujours transmuté par notre image de notre propre voix, c'est toujours une voix dans nos têtes.
I surrender to a sort of retrospective imagination which feeds the analytic faculty with boundless alternatives and which calls each visualized truth to fork and refork without end in the medley complex prospect of my past.
Si Lolita avait fait scandale en son temps, on a l'impression qu'aujourd'hui la censure moraliste serait encore plus violente qu'à l'époque et qu'on taxerait probablement cette œuvre d'apologie de la pédophilie. Monter cette opéra, c'est pour vous un acte de résistance, voire même de subversion à l'encontre du politiquement correct ?
Non, je dirais. Mais ce que je dois dire, c'est que je pense que le censure morale envers cet roman s'est déplacé. En fait, moi, j'ai une censure morale totale envers la pédophilie et l'apologie de pédophilie. Le roman, les gens qui l'ont lu, je pense, ne peuvent pas avoir cette impression. Parce que le livre, c'est vrai que les héros, si on veut, est une pédophile, mais l'héros est aussi un monstre. Il le dit même de sa propre voix. Et en fait, c'est d'autant plus que c'est un livre. En fait, pour moi, Nabokov a choisi une chose qu'il trouvait horrible. Ça aurait pu être l'histoire d'un tueur, ça aurait pu être l'histoire d'autre chose. L'important, c'est que Humbert essaie de créer une acte de beauté sur une chose qui ne peut pas être beau. Et donc, en fait, c'est cette impossibilité entre ses intentions artistiques et la matière première qu'il essaie de transformer, qui c'est au cœur du travail de Nabokov. Donc, c'est un monstre, il faut que ce soit un monstre. Et donc, en fait, il y a pour moi nullement une apologie de ce qu'il a souhaité faire, mais c'est justement cette juxtaposition. Et pour moi, la raison pour laquelle ce livre est controversé n'est pas parce que c'est une apologie de pédophilie. Ça, c'est partout dans notre culture. C'est justement le contraire, en fait. C'est que juste au moment que les lecteurs commencent à se sentir liés à Humbert, parce que c'est quand même un séducteur, c'est à ce moment-là qu'il nous rappelle à quel point il est monstre. Et donc, on se sent sale, on se sent corrompu pour avoir eu des sympathies pour lui. Mais ça, c'était le travail que Nabokov avait mené. Si on veut voir des jeunes filles ou des jeunes garçons sexualisés, on n'a qu'à allumer la télé. C'est pas dans Lolita qu'on va le trouver.
D'autant que, finalement, le thème du roman de Nabokov était bien sûr la séduction, mais au-delà de ça, c'est la tyrannie, le rapport de pouvoir entre les personnes.
Absolument, c'est justement, je pense, ça met pédophilie dans un cadre beaucoup plus juste, où c'est une sorte de dictature, c'est en violation, c'est un viol total de notre être, d'un être par un autre. C'est pas une affaire d'amour, c'est justement ça l'impossibilité, parce qu'il veut en créer une fiction d'amour sur une chose qui est toute sauf l'amour vrai.
Complex prospect of my past.
Votre chorégraphie, Joanne Saunier, se déploie à partir de trois corps féminins, trois corps peut-être pour traduire un idéal, celui d'Humbert, le narrateur.
Oui, parce que j'ai quand même pas l'âge d'être Lolita, hein. Quasiment. Mais c'est surtout, en fait, comme dit Joshua, enfin moi aussi j'avais commencé par le film, et c'est quand on lit le livre, on est... enfin. Le fait de prendre une fille de 12 ans, voilà, c'est une partie de la lecture. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Et pour moi, en tout cas, qui n'est plus l'âge de Lolita, c'est aussi le fait qu'il y a une espèce de jeunesse, une espèce de perfection que lui estime qui se situe en quelques années, entre 9 et 14 ans. Et je trouve que quand on est une femme, c'est difficile à vivre. On voit même aujourd'hui... tout doit être jeune, tout doit être lisse, tout doit être innocent, mais pas vraiment. Enfin, et pour moi, c'était cette partie-là qui m'intéressait. C'est le fait que moi aussi, je dois faire face à ça. Bon, il n'y a pas que plein de Lolita autour de moi, mais c'est pour ça que là, j'ai voulu travailler sur plus des bouts de féminité, essayer de retrouver, même quand on n'a plus l'âge de Lolita, des choses qui peuvent rentrer dans ce qui attire Humbert. Et de le rechercher dans mon corps. Alors, mon corps, ça ne suffit pas, donc j'en ai pris d'autres. Et on a pris plein de petits bouts, et c'est un espèce de puzzle en trois dimensions, comme ça qu'on essaie de reconstituer. Bon, il y en a une en vidéo et deux en chair, quoi.
Pour retrouver ce qui a été ce corps juvénile, comment est-ce que vous vous y êtes pris avec ces trois interprètes?
Je dois dire, j'ai profité le fait que, c'est vrai, son attirance est sexuelle et crue, quand même. Enfin, il aime Lolita, mais il aime le concept de Lolita, mais enfin, il y a quand même quelque chose de très très cru dans son attirance vers elle. Et j'en ai profité pour travailler sur des choses que j'avais jamais faites, c'est-à-dire, comme je travaillais sur des bouts, moi j'ai beaucoup axé sur les jambes, j'ai fait un travail sur enfin, faut bien le dire, oui, les jambes et le bassin, et la manière dont c'est comme un peu des corps qui sont crash comme ça ensemble, donc il y a des bouts de bras et des machins, mais c'est assez harmonieux quand même. C'est aussi, comme disait Joshua, c'est quelque chose qui est censé être laid, mais qui dans une musique, la manière dont c'est présenté, finalement, ça a une certaine beauté aussi, une crudité en même temps. Ça m'intéressait parce que je, voilà, j'aurais pas fait ce travail si j'avais pas fait cette pièce, je pense.
Les vidéos de Kurt Dessler, peut-être quelle place ont-elles dans la scénographie du spectacle ? Est-ce que c'est un lien avec la dimension cinématographique qui est très prégnante dans cette œuvre, Lolita, presque à dépasser même le roman ?
Oui, ben je pense pour Jim, qui n'est pas avec nous là dans l'interview, il y a le départ est quand même que la déposition, on va dire, de Humbert est quand même filmée. Il a décidé de se mettre en scène, il a décidé de se filmer, de se regarder en train de dire les choses. Le public, il s'adresse aux membres du jury. C'est aussi le public, c'est aussi l'orchestre, enfin c'est tout ce qui est autour de lui en fait, tout ce qui n'est, c'est dans sa tête. Et donc les images rentrent dans cette idée qu'il se filme lui-même, on rentre dans sa tête, on rentre dans son imaginaire, on le voit en vrai, on le voit se positionner pour dire certaines phrases quand ça l'arrange, un peu comme un politicien qui gère son image. Et les images, donc il y a des images en direct, il y a des images préenregistrées qui sont plus de l'ordre de son imaginaire. C'est une espèce de triptyque où il se trouve au centre hein, et les images sont déployées autour de lui. Donc elles sont, oui, la partie complètement intégrante de son fantasme. Hein.
Les images sont en triptyque. Il y a trois corps pour identifier cette Lolita. Et quant à la musique, elle oscille entre acoustique, électronique et narration. Trois pôles encore, décidément un ternaire qu'on retrouve à tous les échelons de cette création. Joshua, peut-être quelques mots sur comment vous avez articulé ces trois différents éléments qui composent la musique de ce spectacle.
En fait, pour moi, il s'agissait vraiment de commencer avec les paroles. Pour moi, en fait, le voix narratif, pour moi, quand on lit cet roman, est tellement frappant. Et ça reste tellement dans la mémoire après qu'on a fini, même si on oublie tout le reste. C'est cette voix de Humbert. Donc moi, j'ai vraiment commencé avec ça et commencé à étudier la composition acoustique d'une voix et comment en faire en musique avec. Donc en fait, pour moi, tout découle de sa voix parlée. Donc à la fois, j'ai tiré ça vers une musique instrumentale basée sur les sons et les rythmes, de faire une sorte de grammaire sur sa façon de parler qui pouvait traduire dans une musique instrumentale. Et en même temps, j'ai fait ces traitements de voix parlée pour faire ces voix virtuelles et ou ces voix fictives, je préfère penser ça comme ça. Et puis j'ai essayé de créer une autre couche qui est une sorte de mi-terrain entre ces choses-là qui est en partie de transformation de temps réel de voix parlée du narrateur, parce que ces voix chantées c'est comme des calculs lourds, donc ça se fait pas en temps réel, mais en partie de transformation de temps réel. Et puis il y a aussi des couches un peu du monde ambiant de Humbert mais transformées par sa pensée. Donc par moments on entend des choses qui ressemblent à des battements de cœur ou de feu ou un jeu de tennis joué par Lolita ou des choses comme ça, mais tout passé un peu par le filtre de cet imaginaire à la fois horrible et mais très malin de Humbert.
Lolita, jeudi 17 avril à 21h, c'est à la friche La Belle de Mai, salle de la cartonnerie, dans le cadre du festival Les Musiques, proposé par le GMEM. Tous les renseignements sur le site du GMEM, www.gmem.org. Et renseignements 04 96 20 60 10. Merci.
C'est 5 euros la place. Je suis soufflée.